Je voulais parler des pouvoirs du jeûne avec Fabien Moine, l'un des plus grands experts français du sujet, et nous l'avons finalement à peine évoqué. Comment mener notre barque dans ce monde d'opportunités qui fonce à toute vitesse, quitte à nous perdre en route? Quelle place laisser aux savoirs ancestraux face à une technologie qui nous dépossède de notre autonomie, mais nous promet aussi de nouveaux sommets? Face à ces défis, l'homme pourra en tout cas toujours compter sur ses deux plus grandes forces, qu'aucune IA ne remplacera jamais, son instinct et son intelligence collective. Entre philosophie, entrepreneuriat et santé intégrative, cette première partie passionnante appelle à un second épisode à paraître très prochainement. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute. Bonjour Fabien.
Salut David, et salut à tous ceux qui nous regardent.
Écoute, je démarre toujours ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu me racontes un petit peu l'énergie avec laquelle tu viens ce matin.
Alors, l'énergie avec laquelle je viens, c'est une énergie mouvante. Donc là, j'ai beaucoup de projets. Vu que c'est le vendredi, la fin de la journée, il y a tout qui doit rentrer. Donc j'ai un peu le feu. Donc tu vas en profiter. J'espère que ça va revigorer tout le monde. Donc ouais, plein de choses enthousiasmantes à faire. Donc j'ai plutôt la patate.
Cool. Eh bien, écoute, je fais aussi mon petit check-in. Je suis un petit peu dans le même mood, dans la mesure où la fin d'année est absolument tourbillonnante dans ma vie. J'ai des dossiers un peu complexes sur ma boîte historique. La semaine dernière, j'ai tourné une masterclass sur la respiration avec Stéphane Johnson. La semaine prochaine, je vais au Luxembourg pour en tourner une sur la génomique avec le docteur Mouton que tu connais et qui te passe le bonjour.
Qu'un copain.
Merveilleux. Ça m'étonne pas, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et puis, le week-end dernier, j'ai couru la Saint-Élion. Enfin bref, ça part dans tous les sens. C'est assez intense. Et justement, tu vois, je me dis, j'ai l'impression, j'adore mon travail, tu vois, j'adore ce que je fais, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif et j'aime bien avoir beaucoup de stimulation. Et pour autant, parfois, j'ai l'impression de surremplir ma vie, de surremplir mes journées. Et c'est un constat que je fais de façon un petit peu générale où, tu vois, on a construit des technologies a priori pour augmenter notre confort, pour diminuer la charge de travail, la pénibilité du travail. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on travaille toujours plus, bien plus qu'avant en tout cas. De l'autre côté, on est saturé d'informations, de notifications, d'options, de choix, tu vois, que ce soit vis-à-vis nos perspectives professionnelles, des projets possibles, des choses à acheter, même pour acheter un jean aujourd'hui, ça devient difficile tellement il y a d'opportunités. On a de la nourriture à profusion qu'on n'a plus besoin de cultiver, qu'on n'a plus besoin de chasser. Enfin voilà, j'ai l'impression, et puis tu vois, derrière, pour essayer de manager tout ça, on cherche des hacks. Ce podcast, Limitless Project, on est un témoin parce que sa genèse, c'était d'essayer de trouver comment on pouvait, par la compréhension de la physiologie, être une meilleure machine, entre guillemets. J'utilise volontairement ce mot-là pour contextualiser mon propos. Et donc, on cherche à rajouter des choses, des hacks, des compléments alimentaires, etc. Alors que peut-être la solution, ce dont on a vraiment besoin, ça serait de vider, de faire une dopamine détox, d'arrêter de manger. Je sais que le jeûne est quelque chose qui t'est cher. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, je réfléchis beaucoup à ça avec... des amis qui sont philosophes ou médecins. Moi, je j'étudie beaucoup le rapport au corps, mais dans une dimension assez large. Il y a dans la maison d'édition que j'ai Exuvie, il y a un philosophe qui s'appelle Mehdi Benach Kassem qui a écrit un ouvrage énorme qui s'appelle Le système du pléonectique, qui détaille la notion d'appropriation et d'expropriation. Et dans ce que tu détailles sur le critère technologique, beaucoup de choses qui nous sont proposées, si ce n'est imposées directement ou indirectement, relèvent de l'expropriation. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, ou tout ce qui va gérer nos emplois du temps, nos quotidiens, ce sont des choses pour lesquelles on est capable de gérer, on est capable de faire. Il y a cette volonté de s'en servir comme un outil de notre côté, voire d'améliorer ou de potentialiser ou d'augmenter ce que tu disais, mais souvent... ça va te demander beaucoup de ressources en temps, il va y avoir des bugs, mais ça ne sera jamais que l'artefact de ce que tu peux faire. Donc, tu vas rentrer dans une dynamique où tu perds un certain savoir, parce que tu es chassé ou autre, tu perds un savoir, il t'est exproprié, et pour que tu te le réappropries, il va falloir que tu augmentes en nouvelles connaissances, tout en ayant perdu les autres en lien avec le réel, que tu augmentes en connaissances pour la maîtrise technologique. Pour te réapproprier quelque chose dont on t'a exproprié, il va falloir que tu payes pour ça, que tu penses du temps, de l'énergie et du temps de cerveau. Et en fait, on le voit tous, c'est-à-dire qu'il y a les agendas partagés, les trucs, les machins, tout ce qu'on va pouvoir créer ou même tenter d'automatiser. vont nous faire perdre du temps à un endroit. Et que cette tentative de gain de productivité, en fait, elle se rapproche d'une efficience qui est un peu une course contre la montre perpétuelle, et où on oublie que peut-être en étant centré, en étant dans la conscience, on pourrait faire moins de choses, mais des choses plus justes, plus alignées, et pour le coup, sans perdre d'énergie. Et si on est dans un rendement de temps, des fois, on va suroccuper, surinvestir des champs desquels on a été exproprié ou on s'est exproprié pour tenter d'avoir une remaîtrise tout en ayant perdu le savoir. Et pour la question alimentaire, c'est crucial. J'en parlais hier, tu vois, avec un ami, puis avec mon fils qui a 10 ans, il me pose des questions sur l'alimentation. Pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, pourquoi on mange comme ci. Et tu te rends compte qu'on avait une maîtrise millénaire, ancestrale, qu'on a perdue en 2-3 générations, et qui vont nous demander un temps de réappropriation énorme où on va dépenser du temps en lecture, en vidéo, en documentaire, en recherche, en argent, en énergie, en expérience infructueuse pour réinventer la poudre. Typiquement la permaculture ou les régimes historiques. Le nombre d'heures que des centaines de milliers de personnes comme nous qui cherchent passent du temps à étudier la permaculture et à étudier le régime ancestral, alors que si tu pensais ton temps à méditer, à te relier à la nature, ou à parler aux anciens, tu obtiendrais les mêmes effets sans être passé par un artefact technologique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi extrêmement important. Quand j'ai réfléchi à faire de la supervision sur des thérapeutes, c'était ça l'idée. C'était de dire, en fait, j'ai eu de la chance, moi j'ai rencontré des anciens. Vieux thérapeute, tu vois, qui avait au moins 80 ans, 75 ans, donc ils te font prendre des itinéraires bis. Et je me dis, cette évolution personnelle que j'aurais eue, d'apprentissage artefactuel par le livre ou par la vidéo, sans passer par le contact humain, par exemple, m'aurait privé de ces itinéraires bis. Et en fait, tu reviens toujours vers l'humain comme solution finale. Et que la technologie, quand tu ne la maîtrises pas intégralement, quand elle n'est pas employée comme un outil, et c'est très dur en fait, parce qu'on a tous l'illusion de s'en servir comme un outil, et c'est le but, hein, de se faire commerce du pléonectique, eh bien, en définitive, tu vas plutôt perdre du temps et de l'essence.
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Et donc moi, ce que j'essaye de faire, et c'est dur parce que c'est un mouvement qui est contraire à tout ce qui est macrocosmique, on va dire, tout ce qui nous entoure, c'est de tenter de chaque fois de revenir à une forme de justesse, d'épure, et de me dire quelle est la personne ressource, quel est le témoin du vivant qui va me permettre de saisir dans ma conscience et ensuite dans mon intellect pour valider dans la matière ce que je veux voir comme amélioration dans ma vie. Et le mirage artefactuel, pour moi, est limité. Donc, c'est-à-dire que là, grâce à la technologie, on ne peut pas se rencontrer physiquement, on va utiliser la technologie, une webcam, un micro, une bande passante, et c'est très bien. Moi, pour faire des documentaires, je vais utiliser des caméras 6K, je vais utiliser des tables de montage, et c'est très bien. Mais à un moment donné, il faudra quand même que je fasse des conférences débat. À un moment donné, il faudra que je rencontre un directeur photo pour monter en compétence, et la technologie ne va pas me permettre de monter en compétence. Là, par exemple, tu as des outils d'intelligence artificielle inclus dans les logiciels de montage, ce qui peut être pas de faire des montages. Moi, j'ai des bugs de son que je débug avec l'intelligence artificielle, c'est incroyable. Mais reste que ma sensibilité, celle que je veux faire passer en tant qu'humain, le prisme technologique ne peut pas le sentir. Donc cette recherche de temps gagné, d'efficience et de rendement, si je ne vois que ça comme une finalité, mais pas comme une intention, moi je peux m'y perdre. Donc je suis beaucoup dans cette réflexion-là, et évidemment dans le système de soins, avec toute l'imagerie médicale que tu vas avoir. Tu parlais de Georges Mouton, sur l'écosystème intestinal, il y a aucun relevé bactériologique qui va te faire une meilleure analyse que ce que peut faire Georges Mouton qui a 40 ans de 40 ans d'expertise, quoi. Donc, les deux, pied frein, pied accélérateur.
Non, c'est super intéressant, et notamment cette reconnaissance du savoir ancestral des anciens, justement. Tu vois, je trouve qu'on a tendance à parquer nos vieux, nos personnes âgées dans des EHPAD, à trouver que c'est plutôt un poids plutôt qu'une ressource. Et je trouve que c'est un petit peu l'image qui est véhiculée par notre société. D'ailleurs, le simple concept de la retraite est un concept qui suppose que une fois que t'as donné et que t'as travaillé, eh ben tu sers plus à rien, et donc tu peux profiter un petit peu de la vie et puis mourir tranquillement de ton côté, si possible sans trop faire de vagues. Donc, je trouve que justement la technologie est un catalyseur de cette perte de connexion à l'humain, parce que t'as l'impression que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est plus brillant, tu vois, un documentaire, etc., quelque chose qui est plus actuel entre guillemets, aura une valeur en termes de connaissances, de savoir, de philosophie qui est beaucoup plus forte. Et après sur cette perte d'autonomie. Et le parallèle que tu fais avec l'intelligence artificielle, c'est vrai, et en même temps, c'est grâce à cette perte d'autonomie qu'on a pu s'hyper spécialiser. C'est parce qu'il y a des gens qui s'occupent à ma place de chasser, de cultiver, etc. Enfin, pas de chasser, mais d'élever des bêtes, de cultiver, de construire l'ordinateur que j'utilise pour parler avec toi, la caméra, etc. que moi je peux me concentrer sur mon temps sur d'autres sujets qui me passionnent, et puis apporter de la valeur par ce biais. Donc je pense que c'est aussi et on en revient à cette question de l'humain, parce que quelque part c'est grâce à cette collaboration extrêmement fine, et puis peut-être à l'échelle mondiale, qui est unique dans le règne animal, que l'humain est capable de créer, de produire, de construire, d'innover autant, parce qu'il a pu s'hyper spécialiser et s'interconnecter avec les autres. Et justement, dans cette hyper spécialisation, il faut voir ce que tu acceptes de perdre en termes d'autonomie, de savoir, et ce que tu veux garder, et ce qui va constituer et construire ton monopole personnel. Et donc, je pense que tu parlais des ressources de l'intelligence artificielle pour, par exemple, améliorer ta capacité à monter. Je pense que si toi, t'es passionné par le contenu plus que par le contenant ou la forme, bah probablement que c'est OK de déléguer ça à une IA. Mais par contre, si t'es un réalisateur, un producteur, et que t'as vraiment une patte artistique et une sensibilité spécifique à ça, tu vas trouver que c'est un sacrilège de déléguer ça à une IA. Et de la même façon, moi, tu vois, j'utilise pas mal ChatGPT pour des tâches administratives. Par exemple, il me fait les PV de bord de ma boîte, il m'aide parfois à traduire des prévisionnels que je fais en PNL, etc., pour les présenter à des banques. Enfin voilà, et tout ça, c'est des tâches que je trouve chiantes, entre guillemets. Et donc, là où je trouve que j'ai de la valeur, c'est pas dans le PV de board, c'est dans le board que j'ai eu avant, où j'ai distillé ma stratégie. Là où je trouve que j'ai de la valeur, c'est dans le prévisionnel que j'ai fait, qui traduit une vision de l'avenir et une réflexion sur les prochaines étapes de développement de ma boîte, mais pas sur sa traduction en un PNL hyper bien structuré avec les amortissements, etc., qui est un langage comptable qui va seulement parler aux banquiers. Donc j'accepte de perdre ce savoir, de perdre cette connaissance, de perdre cette autonomie, parce que je considère qu'elle me permet de consacrer du temps à des choses qui me plaisent plus et sur lesquelles j'ai l'impression d'être aussi meilleur.
Ben en fait, dans ce que tu disais dans les bilans, là, tu es dans un langage entre guillemets machine. C'est-à-dire que t'es inclus dans un process où il va falloir que tu montres des tableaux d'amortissement, des prévisionnels, parce que ça va être rationnellement audité. Ensuite, tu vas avoir ta capacité humaine à emmener les gens dans tes projets pour qu'ils aient confiance dedans. Mais tout ce qui est au départ, on est juste dans de la statistique, dans du chiffre, dans de l'algorithme. Donc là, évidemment, tu peux pousser le curseur jusqu'au bout. Et moi, je suis d'accord avec toi sur l'hyperspécialisation. C'est les gens que je supervise en santé, je dis, en fait, notamment en naturopathie, il y a une erreur, c'est que t'as 10 outils. T'as 10 techniques, t'as le massage, l'hydrothérapie, tout ce qui est hydrologie, l'aromathérapie, la phytothérapie, l'alimentation, etc., etc. Bon, t'as 10 techniques. Et l'illusion, c'est de penser pouvoir maîtriser ces 10 techniques. Sauf que pour apprendre, en fait, t'as pas 10 000 solutions, faut être passionné. Tu peux apprendre par le labeur, par la répétition, c'est chiant, ou tu peux apprendre par passion. Et forcément, si tu es amené à étudier la naturopathie, par exemple, tu n'as que 3, voire 4 techniques maximum qui te bottent. Le reste, tu dis c'est cool, mais sans plus. Et moi, c'est ce que j'ai fait directement. Moi, ça a été la respiration, l'alimentation et l'aspect détoxination et rapport au corps, on va dire thérapie manuelle, qui m'a importé. Le reste, que je l'ai étudié, mais je l'ai volontairement mis de côté de mon apprentissage pour mettre une énorme quantité d'énergie sur le domaine alimentaire et sur le jeûne, notamment. Vraiment très fort, c'était surreprésenté. Et du coup, ça t'oblige à quoi? à te mettre en lien avec, quand tu as des cas de personnes qui auraient besoin d'avoir recours à une autre technique que tu ne maîtrises pas suffisamment, à avoir dans ton réseau quelqu'un qui est dans ton état de conscience et dans un champ de compétences très puissant. Et là, c'est pour ça que moi, mon credo aujourd'hui, c'est la santé intégrative, dans le sens où si tu mets ton ego de côté, tu reconnais que tu n'es pas bon partout et que tu as besoin d'une addition de subjectivité pour comprendre un environnement humain, c'est-à-dire le problème symptomatique d'une personne qui est beaucoup plus complexe que le nom de son symptôme. Et que du coup, tu vas avoir un collège de praticiens. Et si en fait, tu te regroupes par famille de conscience, c'est-à-dire ben, moi, j'ai la conscience qu'il faut aller vraiment sur la cause profonde de la maladie et pas justement sur la couche superficielle, d'améliorer son symptôme pour que ça soit supportable. C'est d'aller vraiment sur l'aspect causal. Si tu trouves autour de toi ces gens que cette dynamique, eh bien en effet, ton hyperspécialisation, elle a un sens et tu peux te permettre de à la fois d'avoir peur d'être insuffisant tout en étant réjoui d'être en lien avec d'autres et puis de faire corps pour avoir une espèce de complétude, mais qui est infinie parce que tu ne cesses d'apprendre. Donc derrière ce que je disais, l'expropriation, ce que je voulais dire, c'est pas l'aspect que l'autre, enfin, c'est que ça ne devienne plus que propriété de la machine. Par exemple, en médecine, aujourd'hui, tu as, on va dire, t'as beaucoup d'IA qui font les diagnostics. Donc, le médecin est en train de se faire exproprier de son savoir, c'est ce qu'on voit dans les facultés, et il y a une incompréhension entre le médecin qui a 75 ans, médecin de campagne, et le jeune étudiant de médecine diplômé de 26 ans. Ils ne peuvent plus se comprendre parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Et il y en a un qui va voir l'autre comme perdu, puis l'autre comme obsolète. Et il va lui dire, bah non, là, en fait, tu rentres les critères dans la base de données, et puis à 78,14%, cet amas de symptômes renvoie à telle pathologie, et donc là, quand j'ai tapé la touche entrée, ça m'a donné tel traitement en prophylactique. Et donc là, ça crée un énorme problème, alors que l'autre, avec son expérience, son nez, va dire, ouais, il y a ça, mais moi, d'expérience, parce que j'ai calculé à peu près, un médecin peut voir 250 000 patients différents dans sa carrière. Et ben sur les 250 000 patients que j'ai vus, dans ma base de données interne, en fait, parfois, quand il y a ça, il y a aussi ça. Et c'est ça, c'est ce qu'on trouve chez les médecins internistes. C'est-à-dire, ils vont trouver des hyper spécialistes. Personne ne trouve dans la médecine. Tu vas les voir. Et cogitent, ils se grattent la tête et ils voient ce que personne ne voit. Parce que eux, ils ont une vue d'ensemble. C'est un peu les grands sages de l'hôpital. Et moi, je pense qu'on a besoin de référentiels. Ça devrait être le maire. Ça devrait être, le grand pont de l'hôpital. Ça devrait être le grand sage d'un mouvement comme celui de l'Hormèse ou comme Maurice Daubard l'était pour le froid ou comme Wim Hof aussi. Enfin, bref, l'espèce de référence où quand t'as un questionnement interne, quand t'as un doute, quand même le collectif n'arrive pas au consensus, t'as quelqu'un qui amène un savoir énorme qui ne peut pas être catalysé ou par un humain, difficilement par un groupe humain, là qui s'appelle les disciples, et encore moins par une technologie. C'est plutôt dans ce sens-là où je voulais y aller. En fait, c'est cette à la technologie va échapper cette espèce de subtil, cette espèce d'instinct, cette espèce d'intuition qui, à un moment donné, de la même façon que tu auras un banquier en face de toi, bah, écoutez, tous les voyants sont rouges ou à l'orange pour votre projet, David. Mais il y a un truc. Pour moi, il y a un truc dans l'air du temps. Là, ça correspond. Et moi, je vais faire le forcing et j'ai droit à deux jokers dans mon année pour prendre des risques avec ma direction. Et ben, moi, j'en mets un sur vous. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est ce truc-là irrationnel, mais qui est fondé sur une intuition tellement forte qu'elle ne peut pas être fausse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, tu vois, cette intuition, c'est quelque chose qui a toujours guidé ma vie d'entrepreneur, même si j'en ai jamais vraiment eu conscience. J'ai toujours pensé être quelqu'un d'extrêmement cartésien et pragmatique et puis de fonder mes décisions sur des choses factuelles et puis un plan stratégique. Alors qu'en réalité, tout ça était basé sur... justement un ressenti, une vibration, une idée, une envie. Et aujourd'hui, j'ai décidé consciemment d'écouter mon cœur, d'écouter mon intuition, d'écouter ce qui me fait vibrer. Et je trouve que la vie est beaucoup, beaucoup plus facile lorsqu'on fonctionne comme ça, parce que quelque part, il n'y a pas de mauvaise décision. parce que en fait t'es sûr d'être, si t'es aligné, t'es sûr d'être sur le bon chemin, et quoi qu'il se passe, que ce soit positif ou négatif, quelque part c'est juste là pour te faire grandir et évoluer vers tes valeurs hautes. Donc ouais, ça me parle énormément, et je trouve ça hyper intéressant. Et en même temps, dans les deux exemples que tu cites, le jeune interne qui croit à fond à l'algorithmique, et puis l'autre qui justement est vachement connecté à son instinct parce que il a été renforcé par des 200 000 patients, et donc autant de petites mémoires sémantiques qui restent dans sa tête et qui peuvent s'allumer parce que le cerveau va voir une corrélation avec l'une ou l'autre, ce que la machine ne saura pas voir. Et ben, je trouve que des deux côtés, il y a un risque pour autant. Du côté du jeune interne, c'est d'avoir trop foi en la technologie, trop foi en l'algorithmique, trop froid en lui-même, et en le fait qu'il a des connaissances qui viennent juste de sortir, tu vois, qui sont toutes fraîches et donc qui sont à la pointe de ce qui se fait. Et à l'inverse, du côté du médecin un peu plus ancien, c'est une forme d'immobilisme que je vois souvent, malheureusement, où justement dans cette hyper spécialisation, bah t'as tendance à creuser dans ce que tu fais et à pas avoir suffisamment de flexibilité mentale pour t'ouvrir aux évolutions de la société, aux nouvelles recherches, aux nouvelles découvertes, aux nouvelles technologies, qui pour autant sont aussi pleines de promesses. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des médecins du sport à 60 ans et qui te disent que si t'as une tendinite, il faut que tu fasses 2 mois d'arrêt complet. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que le corps et les tissus ont besoin de mouvement pour se réparer, etc. Enfin voilà, tu vois ce genre d'exemple.
Alors, il y a, tu vois, je vais, ça me ramène un exemple très, très récent. Alors moi, déjà, sur le fait de tendinite ou de douleur, moi, on connaît Pierre Dufraisse en commun. C'était très, très, très drôle. Je vais raconter une anecdote. J'ai eu une fracture de fatigue il y a 4 ans sur le plateau tibial. Donc, c'est extrêmement, extrêmement douloureux. Et donc, c'était opération et repos. C'était ce qui était recommandé unanimement à 100%. Et moi, je ressentais mouvement. Mouvement. Donc je me suis donc je vais voir donc le radiologue, ensuite moi, bref, médecin, c'est opération repos, et je vais voir toute une palanquée d'ostéos très réputés. Ils sont tous repos. Et moi, je sens mouvement. Donc je m'inscris à une salle de sport, ce que j'avais jamais fait, Basic Fit, hein, vraiment low cost, mais à 4 minutes de chez moi. Et tous les jours, pendant 1 heure, je fais du vélo. Comme ça, je suis dans l'axe, tac, 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 je fais ça. Et il y a un ostéo qui est excellent, 9 mois d'attente de rendez-vous vers chez moi, il touche mes fibres, il me dit « Mais non, toi, tu as besoin de mouvement, en fait. Parce que ta caractéristique, dans ton particularisme, dans ta singularité physiologique, tu répares et tu cicatrises beaucoup plus dans le mouvement, et d'autres, ça sera sur l'exercice limité, voire le repos temporaire. » Et donc, je continue, je suis très content, quelqu'un qui m'écoute, en plus. Parce que moi, je disais « J'ai besoin de mouvement, les gens vont... » à contre-courant, donc ils peuvent éteindre ton intuition et la confiance que tu mets dans ton instinct. Il y a aussi ça dans la délégation aussi, de pas que de la technique, mais dans une autorité. Et une fois, Pierre Dufraisse vient à la maison. Et donc, on va à la salle de sport, et moi, je fais, tu sais, du heat bike, du fractionné, et donc je lui montrais. Et donc, lui, il me fait aller au-delà de mes limites. C'est le titre de ton podcast, donc au-delà de des limites. Donc, Pierre Dufraisse, tu vois, l'hormèse même là-dessus. Je descends du vélo, je te jure, je tombe, de toute façon, Pierre s'y tombe, je tombe dans l'allée. Je suis à 2 doigts de vomir, je suis en PLS. Il m'a poussé, mais comme un dingue. Et donc, je dis, mais je vais vraiment. Et lui, il était mort de rire, il croyait que je rigolais, mais je rigolais pas, moi. J'étais vraiment à la limite de vomir. Donc, je mets 10 minutes à récupérer. Je me relève, et là, pendant 3 jours, il est resté 3 jours à la maison, pendant 3 jours, plus aucune douleur dans la jambe. En fait, ça avait l'hyperactivité dans les tissus avait généré une détente et un effet antalgique. Ce qui était absolument contre-intuitif et opposé à toute forme de représentation et de conseils que j'avais pu avoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai un copain qui me demande un conseil pour une de ses amies, enfin pour sa compagne en fait, qui a des gros soucis. Donc moi, on vient me voir, bah, évidemment, comme praticien en santé naturelle. Donc elle a vu des tonnes de praticiens, etc. Et moi, je pense à un traitement même médicamenteux. Je suis pas médecin, hein, mais c'est ça qui me vient. Instinctivement, un antiparasitaire médical. Je dis, bah du coup, faut que tu ailles voir un médecin. Par contre, il faut que ça soit très fortement dosé. Mais ça n'a aucun sens, mais moi, je l'ai entendu de plein de médecins. Donc je dis, bah donne cette piste-là au médecin, qui peut-être va essayer. Le médecin donne le traitement, je crois qu'il est 3 fois la dose, elle a sorti des vers blancs de 15 cm dans ses selles. Là où aucun traitement naturel depuis 10 ans n'avait fonctionné. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai dû sortir de mon champ de compétences pour me dire, là, on me demande un travail dans un endroit où tout a été investigué, il me reste peut-être 2 ou 3% d'action. Eh ben, peut-être que si je mets mon cerveau à l'envers, si je raisonne avec, là, je fais le lien entre le jeune interne et l'ancien, moi, j'essaye souvent de faire ça. Je me mets à l'opposé de mon paradigme. Et je change de perspective et de prisme de lecture. Et je me dis, ben, en fait, c'est ça. Si vraiment j'avais une grande connaissance, sans doute qu'il faudrait faire ça, sauf que je l'ai pas. J'ai cette intuition par porosité de remèdes qui m'ont été donnés avec les médecins avec qui j'échange. Fais ça et ça fonctionne. Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce au filtre que j'ai enlevé pour redevenir poreux. Et à un moment donné, je pense que c'est ça, c'est cet aspect enfantin léger qu'il faut garder, d'être très stimulé par la découverte et la nouveauté. Et puis avec, tu fais un ensemble. C'est pour ça que moi, je ne vois pas d'autre solution que la santé intégrative. C'est sur le point du développement humain, sur le point de l'assemblage de la connaissance, sur le point de ne pas prendre de risques et d'évoluer en permanence, t'es confronté à des gens qui cherchent le meilleur, qui mettent leur ego, leur orgueil de côté pour se mettre au service à la fois de la connaissance et de la pratique expérimentale.
Ouais, bah c'est intéressant hein, de remettre la curiosité en réalité au premier plan. Et d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin que la santé intégrative. C'est même une forme de remède pour la société qui est de plus en plus rapide. Parce que cette incompréhension entre le médecin de 60 ans et puis le jeune interne de 25, il existe aussi potentiellement entre les parents et leurs enfants et puis à toutes les strates de la société, entre les vieux et les jeunes. Et je pense que l'une des seules façons de ne pas se sentir désadapté ou en tout cas de ne pas comprendre le monde dans lequel on vit, c'est de rester curieux tout au long de sa vie, justement, de garder ce mindset de croissance, de continuer à expérimenter de nouvelles choses, à se former, à découvrir et puis à ne pas s'enfermer dans une forme de dogme ou de philosophie de vie ou de croyance qui, tu sais, j'ai l'impression qu'on aime bien chercher des autoroutes, chercher la formule, la solution parfaite. Et puis, une fois qu'on l'a trouvé, OK, c'est bon, je l'ai trouvé. Maintenant, je continue dessus et je m'enferme de plus en plus. Alors qu'en réalité, je trouve que la vie, c'est un chemin. Il est sinueux, il est rempli d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il est beau aussi. Et il y a qu'en l'arpentant qu'on peut rester, entre guillemets, adapté, qu'on peut rester fit, vis-à-vis d'un monde qui évolue à toute vitesse. Et je fais juste une parenthèse parce que j'aime bien ton exemple là sur ta fracture de fatigue parce qu'il m'est arrivé à peu près la même chose l'année dernière. Je me suis mis à courir parce que je voulais préparer une Spartan Ultra et donc évidemment j'ai trop rapidement augmenté le volume parce que en réalité courir est tellement naturel que facilement tu peux augmenter rapidement, t'es pas limité par ta force musculaire comme tu pourrais l'être avec des poids. Et donc je me suis fait au bout d'un mois et demi ou deux mois une fracture de fatigue au tibia, enfin au fibulaire et au fibula. Et donc j'étais au début je savais pas trop et puis après j'ai été voir un médecin du sport qui m'a conseillé repos complet, qui m'a dit de faire un IRM. Mais pour l'IRM il y avait un mois et demi d'attente, etc. Enfin, et moi j'étais sur ma prépa, puis en plus j'ai besoin de faire du sport, de bouger, donc je me sentais pas bien avec ça. Le diagnostic me convenait pas, donc j'ai acheté le bouquin de la clinique du coureur que j'ai trouvé hyper intéressant. Ouais, par ailleurs.
Super.
Et d'ailleurs j'ai reçu Blaise Dubois sur ce podcast, on en a un petit peu parlé. Et qui proposait un protocole rempli de bon sens, extrêmement simple, où tu cours, tu marches une minute, tu cours une minute, et puis tu fais ça 10 minutes. Et si ta douleur elle dépasse 2/10, ben t'arrêtes. Et tant que tu dépasses pas 2/10, c'est bon. Et si le lendemain matin, en te réveillant, t'as mal, et ben tu te reposes. Et si t'as pas mal, tu peux continuer petit à petit augmenter la charge. Alors ça fait bizarre parce qu'en réalité, là-dessus, sur ce protocole, j'aurais couru que 5 minutes, tu vois. Mais petit à petit, comme ça, je me suis remis en mouvement. J'ai guéri ma fracture de fatigue. J'ai jamais été faire l'IRM. J'ai jamais fait le repos complet dont tu parlais. Et j'ai pu m'entraîner et finalement boucler cette Spartan Ultra avec mon ami JB, qui est médecin urgentiste, que j'ai reçu aussi sur ce podcast et avec qui j'organise les festivals Limitless Project, dont la prochaine édition aura lieu au mois d'avril, au week-end de Pâques. Et, ouais, vas-y.
Non, vas-y, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur justement ce besoin de mouvement, puis surtout de cette écoute, parce que là, il te renvoie encore une fois à ton bon sens. T'as mal, t'arrêtes. Comme les gens te disent, quand je mange ça, j'ai mal au ventre. Bah, le mange pas, puis les gens, ils te regardent comme ça. Bah oui, et quand je fais ce mouvement-là, j'ai mal. Bah, fais pas ce mouvement, ou fais le moindre. En fait, ça paraît bête, hein. Ça paraît hyper bête, et c'est pour ça que quand je parlais d'expropriation, c'est que par la connaissance, par la rationalisation, par le process et le protocole, on est capable de t'ôter ce bon sens-là. Et moi, je reviens au jeûne, souvent, parce que c'est l'épure totale qui te renvoie à ton ressenti pur et qui te confronte à tes peurs. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va te limiter? Ta peur. Je pense que tu sais que c'est quelque chose, c'est un sentiment que tu dois énormément investiguer dans tes podcasts. Parce que les personnes ont du mal à explorer leur potentiel, souvent par peur.
Bien sûr.
Par peur d'eux-mêmes, par peur de sortir de la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, par peur de l'image de l'autre, par peur de l'échec. Enfin, c'est tout un tas de peurs. Et donc, il y a la peur de la blessure ou la peur de pas faire assez. Ouais, c'est clair que ça fait bizarre de faire une sortie de 10 minutes où tu cours juste 5 minutes. Mais en fait, si c'est ça la voie de sagesse, eh ben, c'est comme ça. Alors que là, c'est structuré dans un bouquin par quelqu'un qui a une expertise. Mais si on s'écoutait tous, on y arriverait à ça. On y arriverait vraiment, sauf qu'on doit avoir un petit maître, soit à l'intérieur de nous, soit à l'extérieur, qui arrive à nous remettre au bon tempo. Et j'avais sorti un bouquin, un des premiers livres que j'ai sorti avec ma maison d'édition, c'est Ultra Finisher de Eric Bonnot. Lui, il a fait plus de 100 ultra trails, donc des courses de plus de 100 km. Il en a fait 120, il a fait troisième à l'UTMB, enfin bref. C'est un bon copain. Et lui, il m'a dit, j'ai repassé des paliers quand je t'ai écouté, parce que ça l'a vachement inconforté quand il m'a entendu qu'on pouvait courir à jeun. Et lui, maintenant, il court ses marathons à jeun. Et pour lui, c'était impensable. Et il s'est mis à plus de 60 ans à performer un peu plus en changeant une zone de certitude pour lui. Et ça, c'est la vraie évolution. C'est quand tu es capable de remettre sur le tapis en permanence tout ce que tu as construit, tout ce que tu as érigé. Et là, tu augmentes ton cercle d'apprentissage, que ce soit avec des gens ou des accès de connaissances. Et moi, je ne vois la vie autrement que par... Enfin, pas autrement que par ça. C'est pour ça que je fais des bouquins. En fait, tu prends le temps de la réflexion, tu prends le temps de l'infusion et tu prends le temps de grandir. Et c'est en fait se faire ce pas de côté. Et sans doute que cette fracture de fatigue, bah, elle te fait gagner beaucoup plus de temps parce que elle te crée un nouveau paradigme de lecture qui va pouvoir être répercuté sur un grand ensemble de choses et pas uniquement sur l'activité physique de récupération.
Ouais, elle t'oblige à être un expert en fait de ton propre corps, de toi-même, et puis d'explorer de nouveaux champs de compétences, etc., que t'aurais peut-être pas été voir sans la blessure. Et d'ailleurs, j'avais entendu une stat assez hallucinante qui montrait que les sportifs de très haut niveau, donc sportifs olympiques, champions du monde, etc., qui duraient le plus en réalité, c'est ceux qui s'étaient blessés ouais. relativement tôt dans leur carrière, parce que ça les avait obligés à s'arrêter pendant une certaine durée, tu vois, et à se recentrer sur eux-mêmes, à revoir leur pratique, à revoir leur charge d'entraînement et revoir aussi peut-être ce management du stress, parce qu'on pense au stress physique, mais on oublie peut-être toutes les autres formes de stress en fait qui viennent se cumuler et puis qui remplissent cette chasse d'eau, pour reprendre le modèle de Guillaume Millet autour de ça. Et puis aussi d'explorer de nouveaux outils pour manager justement et cette compréhension, cette connaissance du corps pour éviter, parce qu'en fait c'est des gens qui marchent sur des lignes de crête, tu vois, ils sont l'expression du plus haut potentiel humain, mais ils sont en équilibre entre deux abîmes et un pas de côté et ils tombent en fait et c'est la chute. Et je pense que justement ils ont d'autant plus besoin d'avoir cette connaissance très très fine d'eux-mêmes et des outils à leur disposition. Et quand je parle d'outils, c'est pas forcément d'outils technologiques, ça peut être des outils de réhab, de respiration, que sais-je, de jeûne par exemple, pour justement tenir en équilibre sur cette ligne de crête. Et bon, bah, puisque tu me tends la perche de cette relation entre le jeûne et le sport, je propose qu'on creuse un petit peu ce sujet, parce que on entend des tas de choses vis-à-vis de ça. Donc déjà, tu parlais de courir à jeun, que ce serait un stress trop important pour le corps, que de faire du sport à jeun, on peut pas être performant, on peut pas être efficace. Et puis t'as aussi ce problème dans l'endurance ou l'ultra-endurance de manger suffisamment de calories. Alors si je rajoute un jeûne de 24 heures dans ma semaine ou que je fais du jeûne intermittent, comment est-ce que avec une fenêtre d'alimentation réduite, je peux réussir à combler les besoins de mon corps? Qu'est-ce que tu réponds à ça?
En fait, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à la enfin on ne connaît pas assez notre corps, on ne lui fait pas assez confiance au niveau de nos ressentis. De manière tout à fait pragmatique, là on est obligé de parler de différencier des sports explosifs des sports d'endurance. Ce qui est explosif, le sprint, là tu peux avoir une gestion différente des sucres de ce qu'est de l'endurance. Quand tu pratiques l'endurance, tu as une réserve de sucre, hein, le glycogène au niveau du foie. Donc tu as à peu près on va dire une journée d'apport calorique. Donc, tu sais que si tu vas faire ton marathon, t'as de quoi faire. Tu vas taper dans tes réserves, tu vas courir 2h30, 3h, parce que là, on parle, on va dire 3h, hein, quelque chose de médian. Et donc, là, t'as tes calories. Par contre, si t'as peur ou que tu ne connais pas ou que t'es dans le mimétisme de ton contexte, celui de course à pied ou de l'endurance, tu fais la pasta party. T'amènes des calories vides, donc des glucides et point, et basta, pasta, quoi. Et donc, du coup, tu auras un pic de glycémie et une chute de glycémie qui va arriver pendant ton effort physique. Par contre, si tu manges cétogène, donc c'est-à-dire uniquement des lipides et des protéines, avant, tu habitues déjà ton corps à fonctionner sur les graisses et non pas sur les sucres. Et au moment où tu as fini ton apport calorique, externe, tu vas basculer sur un processus qu'on appelle la néoglycogénèse, donc la transformation des graisses en sucre, pour faire simple. Et ce processus-là, tu l'as déjà vécu avec ton alimentation cétogène. Et donc, ce qui fait que quand tu fais du sport à jeun, tu es dans un continuum de tes derniers jours de diète où tu étais en cétogène. Et donc, tu transformes tes réserves, une fois que tu as pompé ton glycogène, tes réserves de graisse en sucre. Et en fait, c'est absolument linéaire pour le corps. C'est le même processus qui se passe en jeûne. Les jeunes disent, comment tu as de l'énergie? Tu as de l'énergie par deux choses, tes graisses, et ton repos. Et donc, si le sportif de haut niveau qui fait une grosse activité physique a du repos, alors c'est repos physiologique mais mental, plus un repos du système digestif et une connaissance de sa physiologie qui fait qu'il est dans un continuum de transformer ses graisses en sucre, t'es sur une autoroute, quoi. Et moi, j'ai travaillé avec des champions, champion d'Europe d'apnée, gardien d'équipe de France de sport collectif de très haut niveau, champion d'Afrique de football. Enfin, voilà, j'ai vraiment avec des très hauts sportifs. Et tu voyais les points de blocage, les points de peur, et où ils étaient tellement rationnels sur le fait d'anticiper et que l'alimentation venait comme un doudou affectif plus que sur un apport calorique. Il faut que j'ai ça, sinon va y avoir ça. Il faut que j'ai ma petite dose de sucre en gel. Au 17,4 km, sinon je vais faire une hypo et puis je vais devoir m'arrêter sur bon la route. Et ça pourrait arriver parce que sa tête pourrait le programmer pour ça. Sauf que si il acquiert de la connaissance et qu'il s'entraîne à jeun, pour lui ça va être révolutionnaire et ça sera encore mieux. Il va pas s'arrêter au ravito, il va pas dépenser de l'énergie à digérer. Il aura, enfin sa sudation va être différente. Enfin bref, tout va changer. Et donc pour moi c'est une autre étape que tu passes. On parlait d'un exemple, c'était un donc champion d'Europe d'apnée dynamique. Donc c'est très technique. Et là, pour montrer que vraiment la tête contrôle tout. Donc là, on faisait le coaching sur la bouffe, bon, sur la respiration, il n'y avait pas besoin de moi, et sur la préparation alimentaire, qu'est-ce qu'il devait manger. Il y a plusieurs épreuves dynamiques dans l'apnée. C'est avec palme, sans palme. Enfin bref, t'as différents trucs. Et donc lui, sa spécialité, c'est le sans palme, je crois, de mémoire. Donc il fait. Désolé. Attends, tu pourras faire un montage?
Normalement, c'est no cut, mais c'est pas grave.
Ah d'accord, ok. Bon bah désolé, parce que là on a essayé de retirer. Désolé. Et donc du coup lui, il se met vraiment dans quelque chose qui est très très efficient, et ce programme, et il doit être champion de France. Pour être champion de France, c'est sûr qu'il va être champion de France. Il se met une grosse pression, il gère son alimentation comme un dingue, il fait 8e. Donc c'est-à-dire classement, mais nul. Enfin pour lui, c'est impensable. Il pensait même pas ne pas être premier. Et donc du coup, le lendemain, il a la compétition pour laquelle il est moins bon. Avec ou sans palme, enfin l'inverse. Le soir au restaurant, il se bouffe une énorme côte de bœuf et frites, plus il prend deux fois des profiteroles au chocolat. Donc en gros, j'ai perdu, ma compétition elle est à chier, donc je laisse tomber, quoi. Tu sais, c'est puis le dégoût, plus l'auto-sabotage, enfin tout le truc qu'on connaît, quoi. Le lendemain, il gagne, paf. Et donc on redébriefe dessus, quelle est la chose la plus importante? Le lâcher prise mentale. C'est-à-dire qu'il s'était tellement mis la pression la veille pour la compétition, il était roi, que il a s'est foiré parce qu'il a limité ses capacités en se mettant trop la pression. Et le lendemain, il était tellement relâché en disant, bah, de toute façon, c'est foutu, puis j'ai mal bouffé, puis c'est là où je suis nul, puis si j'ai fait huitième, et paf, il a pété tout le monde. Et pour revenir sur les sportifs de haut niveau, moi, j'ai beaucoup regardé, je suis un grand, grand fan de foot, c'est pour ça que j'en ai dit aussi, puis que j'y joue encore. Et en fait, j'avais regardé ceux qui avaient des carrières courtes, ceux qui avaient des carrières longues. J'ai remarqué que ceux qui avaient des carrières très courtes, souvent avaient commencé le très haut niveau très jeune. Donc, ils n'avaient pas encore fini leur maturité de croissance. Ils n'avaient pas été accompagnés pédagogiquement, comme on le voit avec beaucoup de jeunes qui sont cramés. Et là, on voit la petite pépite de l'Espagne, Gavi. Tout le monde disait il y a 2 ans, ouais, c'est incroyable, c'est le joueur qui a fait le plus de matchs au monde. Il a fait 68 matchs cette saison, c'est fantastique, c'est vraiment le truc. Et là, il prend un an de blessure. 2 ans après, bah, c'est logique. Son corps est à peine en formation, on le traite comme quelqu'un qui a une maturité physiologique à 27-28 ans. Et on lui a mis des entraînements de très haute intensité. On ne sortait pas dans les matchs. Et ceux qui duraient très longtemps. Et très souvent, il y avait une blessure longue d'au moins 6 mois, une fracture. Ce qui, en fait, tu dois régénérer ta fracture osseuse, mais en fait, c'est l'ensemble de ton corps que tu régénères, c'est l'ensemble de ton esprit que tu régénères. Tu sors du mode compétition, donc c'est-à-dire stress chronique, tu ne voyages plus, tu te ressens sur ta famille, tes besoins, tu vas être dans un peu de ludique, et tu te mets en perspective. Tu te dis, maintenant, ce milieu-là, il est quand même vachement superficiel, puis c'est pas mes amis, c'est mes collègues de travail. Je suis avec eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en déplacement. Tu recrées un autre cercle et tu te crées un équilibre, une harmonie que tu n'aurais pas pu avoir en étant au cœur de la machine. Et puis, tu as les personnes que j'appelle exceptionnelles qui, elles, durent sans blessure, comme Cristiano Ronaldo, parce que si tu regardes comment il gère sa santé, il est méticuleux dans tout. C'est-à-dire que le gars va te dire, moi, j'ai pris le spécialiste du sommeil. Il me dit, faut pas dormir 8 ou 9 heures. Il faut faire des séquences de cycle complet d'une heure et demie, mais 5-6 fois dans la journée. Donc lui, il dort 1h30, il se réveille, il fait ses affaires, il se recouche 1h30 et il fait ça plusieurs fois dans la journée. Il connaît parfaitement le jeûne, il connaît le jeûne intermittent, il dit, c'est pour ça qu'il y avait un truc très célèbre où on le voit, il prend Coca, je sais pas si t'avais vu ça.
Si, ouais.
T'as Coca qui plonge, qui perd 7% le lendemain.
Ouais, c'est incroyable. Magnifique.
Parce que le mec, il dit, non, moi, je veux pas être associé à ça parce que je suis tellement focalisé sur maîtriser mon corps et comme tu disais, comme une machine, entre guillemets, que je peux pas me permettre ça. Et si tu regardes, il est jamais blessé. À part un gros tacle, il n'a jamais de blessure musculaire, il a jamais les tendons, les ligaments, ça tient. Il a 38 ans, il est toujours au top. Bon, après, moi, je vais pas dans l'équation pour mettre le dopage. Peu importe. Moi, je vais dire, de toute façon, tout le monde pourrait y être. Donc, je sors ça de l'équation, en disant, ce mec-là investit. Je suis pas grand fan, mais objectivement, il n'est pas blessé, il est sur la durée. Et donc, pour moi, t'as ça, t'as la blessure, avec tout le contexte globalisant en dehors du repos physiologique, l'étude du corps poussée où vraiment tu surdétailles, ou alors le fait d'être médian. Et en fait, tu regardes que ta qualité technique intrinsèque par rapport à ton activité, c'est pas ce qui est le plus important. C'est comment tu vas travailler autour pour potentialiser à fond, en définitive. Et un quelqu'un comme Ronaldinho, qui avait sans doute plus de talent technique qu'un Cristiano Ronaldo, une carrière finalement très courte de 4-5 ans, parce qu'il a une hygiène de vie absolument dégueulasse. Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. Et ça me sert de support pédagogique, parce que ce sont des personnages médiatiques qui sont connus dans le monde entier, et dont tu peux dresser des choses. Et d'ailleurs, tu le vois que c'est un petit peu le secret maintenant des sportifs de très haut niveau de pas parler de leur diète. Parce qu'ils ont trouvé leur truc, ils veulent pas le partager parce que, évidemment, d'un point de vue concurrentiel, ça se fait pas. Mais ils ont tous leur coach nutritionnel et ils se battent pour avoir les meilleurs et ils prennent tous des coachs en dehors des coachs qu'ils ont déjà, qui sont fournis par leur club en général. Si on parle football.
Je te parlais tout à l'heure de Guillaume Millet qui a mis au point un concept, le concept de la chasse d'eau. Et donc, en gros, l'idée, c'est que, à chaque fois que tu rajoutes du stress, donc ça peut être un stress physique lié à une activité physique ou bien du stress émotionnel, un manque de sommeil, etc., et ben, t'as comme une chasse d'eau dans ton cerveau qui se remplit. Et donc, le cerveau garde toujours une petite zone de sécurité et au bout d'un moment, lorsqu'elle est atteinte, il coupe l'effort. Et donc, c'est ça qui fait que tu t'arrêtes, que la performance s'arrête. Donc, il y a plusieurs stratégies pour éviter, pour améliorer la performance. C'est soit diminuer cette zone de réserve, soit diminuer le débit de remplissage de la chasse d'eau, soit partir avec une cuve vide. Et là, en fait, ce que tu me partages vis-à-vis des exemples que tu m'as donné avec ton apnéiste qui s'est lâché lors de son repas parce qu'il pensait que tout était foutu, ou bien ces sportifs qui se sont blessés et qui pendant 5 mois, 6 mois ont pu se recentrer sur eux-mêmes et donc sur leur famille, sur les choses qui étaient vraiment importantes et diminuer leur stress mental, c'est qu'ils arrivent du coup à vider cette cuve. J'en viens à la question suivante. Comment est-ce que toi, tu te régénères? Justement, on l'a dit tout à l'heure, on fait plein de choses, on est des gens passionnés, t'as tes maisons d'édition avec Zuvi, tu donnes des cours, tu fais des congrès, t'accompagnes des gens dans le jeûne. Enfin bref, t'as plein de casquettes, comme moi. Comment est-ce que dans tout ça, justement, tu te régénères?
Alors, en jouant avec mon fils, beaucoup. C'est-à-dire, là, en ce moment, on joue aux fléchettes. Ça fait plusieurs semaines, tu sais, quand t'es gosse, t'as des monomanies ponctuelles. Donc lui, c'est fléchettes. Donc, bon, il rentre de l'école, jette le sac et on fait des fléchettes là-dessus. Donc, je me relie beaucoup à l'instant enfantin de mon fils. Et donc, ça, c'est la première chose. La musique, beaucoup de la musique, mais qui n'est pas qui est très aérienne, dans laquelle je peux me diluer, et le souffle. C'est vraiment le souffle, moi, qui va dire tout ce qui est création, écriture. Donc j'écris beaucoup. La réalisation de documentaires m'aère au moment de l'écriture, mais après je m'y perds parce que ça devient trop technique. Il y a de la technologie qui rentre en jeu, mais moi c'est surtout ces trois choses-là. Je peux plus faire de sport parce que justement j'ai les reliquats de cette fracture de fatigue qui sont très forts, qui étaient survenus sur une jambe blessée. Donc moi, je courais. J'étais beaucoup dans le mouvement de la course à pied. Pour moi, c'est un mouvement naturel que je trouve exceptionnel. Donc je fais d'autres choses, mais ça ne me nourrit plus comme j'avais cet espace nourricier. Donc là, je suis plutôt dans la posture, dans l'étirement, dans une espèce de choses comme ça. Donc ça va être grosso modo le jeu avec mon fils, la relaxation en musique et le souffle. Et puis après, ça peut être le contact avec les éléments comme la nature, ce qui est un peu plus compliqué là parce qu'on est beaucoup par temps de pluie, donc je vais surinvestir un peu ailleurs, et donc l'élan créatif, artistique, j'ai besoin de créer. Et d'ailleurs, j'avais partagé avec les équipes avec qui je travaille, j'avais dit là, je vais très mal parce que je ne crée plus, il faut que je délègue encore plus pour revenir dans la création, sinon ça, je vais casser en fait, je vais rompre. Et vous le voyez déjà sur mon tempérament, je suis pas moi, parce que ce point d'équilibre, je ne l'ai plus, parce que je ne suis plus créatif. J'accepte d'être dans l'opérationnel pour être créatif. L'opérationnel est au service de la créativité pour moi. Et donc là, ça venait à un point où j'étais dans la gestion d'urgence, dans la dynamique opérante, et ça me ressemblait plus. J'étais un technicien autonome, je dis, j'agis comme un salarié, quoi. Et pas comme quelqu'un qui a plein de projets dans les tripes, qui les met dedans, qui crée des équipes, qui crée du mouvement, et puis je suis esclave de moi-même. Et ça, pour moi, c'était insupportable. Donc du coup, j'ai tout rechangé, j'ai changé les paramètres, et donc là, je suis dans une zone intermédiaire, mais rien que de l'avoir posé, ça va mieux, et j'arrive à me régénérer dans l'écriture, notamment d'un bouquin sur le jeûne, où là, j'y mets toute ma passion, toute ma joie, et là, ce que je te disais, comme tu disais, quel état d'esprit ce matin, ça explose.
Ça me fait sourire ce que tu dis, parce que j'ai vécu un peu la même chose, où je me suis senti emprisonné par ma propre boîte que j'ai créée pourtant. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai décidé qu'il fallait que ça change, presque du jour au lendemain, j'ai de nouveau plein d'idées qui sont revenues dans ma tête. Et là, je me suis dit, putain, en fait, ça fait des mois que j'avais perdu qui j'étais. J'étais plus moi-même en réalité. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien, même si après, effectivement, il y a tout un temps d'inertie pour réorganiser les choses, etc., et faire en sorte que tout ça puisse s'exprimer correctement. Mais déjà, le fait de prendre conscience que je m'étais perdu et que je me retrouvais, qu'est-ce que ça m'a fait du bien et qu'est-ce que ça m'a apaisé?
La prise de conscience, je dirais, et la décision, parce qu'il y a des gens qui vont être dans la prise de conscience, mais qui ne vont pas changer, qui vont être juste, je suis conscient que c'est pas bien, mais t'arrives pas à basculer en mode solution. Ouais. Et en fait, t'es juste dans le constat, dans l'analyse, voire la sidération, et puis t'es comme ça, t'es figé. Et moi, j'ai eu besoin de signaux extérieurs pour basculer en mode solution. Donc là, c'est des gens qui m'ont dit, ça va pas, quoi. Change. Et puis tu tiens le truc, tu tiens déjà la barre, t'es tendu. Et donc, pour changer, il faut que tu réamorces, sauf que ton mouvement, il est pas fluide. Et moi, j'ai eu besoin d'un stimuli extérieur. Il y a eu l'état des lieux que j'ai pu faire par moi-même. Et il y a eu à un moment donné une étape de deuil, en fait. Moi, ça passe par étape de deuil souvent. C'est-à-dire que, comme tu vois, c'est les gens qui ne créent pas de projet ne peuvent pas sentir. Mais en fait, ça aboutit. Quand t'es dans cette situation-là, enfin, je sais pas toi comment tu le vis. Moi, c'est quand même un échec. C'est l'illusion d'un sentiment d'échec. Donc, du coup, tu dois faire le deuil d'une non-réalisation espérée pour pouvoir basculer dans un autre processus créatif. Moi, ça passe toujours par ça. c'est pas que l'attente était trop haute, c'est qu'en fait, la direction que tu as choisie, à un moment donné, t'amène ailleurs. Mais donc, ce revirement-là, c'est presque comme un échec de la piste initiale, alors que normalement, on devrait être dans un mouvement fluide comme ça, sauf que bah, c'est pas, la vie n'est pas aussi harmonieuse que ça quand on l'est intérieurement. Et donc, moi, il a fallu de dire non, c'est pas un échec. Par contre, c'est un deuil. Et donc là, je suis rebasculé en mode solution. Et il y a, comme toi, les projets ont foisonné alors que j'étais plutôt à ralentir, mais que ça se passe très bien par l'état d'esprit et grâce aux stimuli extérieurs. Je sais pas, j'aimerais bien avoir ton... Là, c'est moi qui te pose une question. Mais est-ce que toi, quand tu bascules en mode solution autre, est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient d'un stimuli extérieur à un moment donné qui amène un déclencheur?
Non, en l'occurrence, ça venait de moi. Alors, tu vois, j'allais dire, tout à l'heure, tu parlais des peurs. Effectivement, on en a plein, la peur de manquer, la peur de pas être aimé, de pas être reconnu, etc. Et ça a tendance à nous paralyser. Alors moi, j'ai une façon de les désamorcer qui est de prendre rapidement des décisions et de construire le plan après. Je m'engage et après, je réfléchis au plan et je fais confiance au chemin. Et pour autant, j'ai beau dire ça, vis-à-vis de cet état de fait et du fait que ma position, etc., me convenait plus, j'ai pas été capable justement de passer à la décision et à l'exécution aussi rapidement. Et donc en réalité, je vois tout à fait ce que tu veux dire, parce qu'il y a eu toute une période de dualité où coexistait le moi fantasmé, celui vers lequel je voulais aller, où je sentais que je devais aller, et puis le moi actuel qui était totalement intriqué avec ma personnalité, avec ce moment, avec ce contexte, et dont je pensais être prisonnier. Et donc je voyais pas de solution, je voyais pas comment passer de l'un à l'autre. Et donc tout ça, ça crée beaucoup de tension parce que t'as quand même les deux qui se battent à l'intérieur de toi, ton envie et la réalité. Et donc j'ai supporté cette tension pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, jusqu'à un moment où elle était peut-être trop importante. Et en fait, je te dis des bêtises parce que tu m'as demandé est-ce que c'est venu de l'extérieur. Et donc il y avait déjà cette tension préexistante, mais j'ai fait un call avec Nicolas Aignon, qui est quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast qui m'inspire beaucoup. Et justement, d'où vient cette idée des check-ins au début de podcast et des check-out qu'on fera à la fin. Et donc j'ai fait mon petit check-in et puis je lui parle un petit peu de cet état de tension. Et lui il me fait le sien. Et en fait, il a l'air tellement bien, tellement aligné avec lui-même, avec ce qu'il fait, etc. Ça rayonne, tu vois. Et je me dis non mais je me plante quoi, je me mens à moi-même, c'est pas, je peux pas continuer comme ça. Moi, c'est ça que je veux, tu vois. Et puis il me pose une question conne et il me dit deux trucs. Il me dit, tu sais, les gens comme nous, etc. On a facile à s'engager, on a facile dans le commitment, mais on a beaucoup de mal à se désengager. Donc déjà, le fait de prendre conscience de ça et d'avoir l'impression d'être compris, ça m'a aidé. Et la deuxième chose, il m'a dit, qu'est-ce que tu dois changer dans ta vie pour que ce soit du kiff tous les jours, dans ton travail pour que ce soit du kiff tous les jours. Et c'est vrai que j'avais jamais vu les choses sous cet angle. C'est une question conne, hein, mais j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et le fait de me poser la question m'a tout de suite amené à me dire, ok, en fait, la façon dont je travaille aujourd'hui, dont je vis aujourd'hui, me convient pas. Maintenant, il faut que je trouve une solution. Et le fait d'ouvrir cette porte, parce qu'avant je me disais, ça va pas, mais il y a pas de solution. Je tiens bon, je serre les dents jusqu'à ce que je vende ma boîte, etc. Et tandis que là, j'avais pas la solution, mais j'ai ouvert la porte. Et le fait d'ouvrir la porte la nuit, j'ai pas dormi de la nuit. Il y a plein de trucs qui sont arrivés dans ma tête et je me suis dit, bon, bah, je sais pas comment, mais j'ai trouvé une solution. Et en fait, petit à petit, j'en ai parlé à mes associés. Après, un peu plus tard, j'ai réorganisé ma boîte. Après, j'en ai parlé à mes investisseurs et ainsi de suite. Et au final, voilà, c'est un processus qui a mis du temps. Mais dès que j'ai ouvert la porte, dès que je me suis permis, d'envisager une autre solution et que j'ai pris conscience du fait que ça m'allait vraiment pas, les choses se sont fait petit à petit naturellement.
Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est cet état d'esprit, comme tu dis, du stimuli extérieur à un moment donné qui vient à un instant T. Peut-être qu'on te pose la question deux semaines avant, tu peux pas l'entendre.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire la synergie du stimuli extérieur et de l'activité interne que tu as qui, à un moment donné, crée une étincelle. Il y a des choses, moi, qu'on m'a dit, qu'on participait à des prises de conscience, qu'on m'avait déjà dites, que j'avais déjà entendues, que j'avais déjà ruminées. Mais au moment où ça a été exprimé, la façon dont ça a été exprimé, par qui ça a été exprimé, c'est venu faire mouche. Et moi, c'est pour ça que la mise en lien, pour moi, est essentielle. C'est-à-dire que tu ne peux pas grandir sans l'autre. C'est-à-dire, des fois, tu te dis, ouais, il s'est fait tout seul, tout. C'est pas possible, en fait. Parce qu'à un moment donné, tu auras la confrontation d'un état d'être, et des fois, juste sur un regard, tu vas obliquer. Juste sur une expression de visage de quelqu'un, tu vas changer. Et en fait, bien sûr que c'est ton mouvement, bien sûr que ça t'appartient. mais tu es quand même lié à un environnement. Et c'est pour ça que pour moi, je répète souvent, les bonnes idées, les bons livres, c'est rien en fait. C'est comment tu fais rentrer tout ça dans la matière, quelle synergie tu crées autour et quelle conjoncture va se manifester. Il y a des choses que tu maîtrises et des choses qui ne t'appartiennent pas et que justement tu dois être à l'affût. Et quand tu es trop recentré sur toi, pour ça que moi j'aime pas cet espace où tu rumines dans ta problématique parce que tu ne peux pas voir la solution. Ça paraît bête, hein, dit comme ça aussi. Mais en fait, c'est le moment où faut, au moment où, où ton projet a le plus besoin de toi, bah c'est le moment où il faut être le moins présent pour ton projet pour être à l'écoute du dehors et revenir avec une vraie fraîcheur à un angle neuf. Enfin, moi, maintenant, c'est comme ça que je considère les choses.
Non, ouais, clairement. Et c'est extrêmement paradoxal parce que c'est souvent quand t'es submergé, quand t'as des gros problèmes à gérer pour ta boîte, etc., que tu te dis, faut que je travaille plus, faut que j'y réfléchisse plus, etc. Alors même que là, ce dont t'as besoin, c'est de la clarté d'esprit. Et la clarté d'esprit, tu la trouves en allant marcher dans la nature, en te ressourçant, en te régénérant, exactement comme on disait précédemment.
Et en te confiant, moi j'ai eu le, tu vois, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'il y a, bah j'étais, voilà, il y a 3 mois là dans les projets, c'était dur, c'était très violent même, intellectuellement, émotionnellement, c'était, je suis jamais passé par ça, et au point que j'ai planté 2 fois un ami qui a plusieurs boîtes, qui me disait, tiens, on se retrouve sur Lyon, quand tu passes, j'aimerais te parler d'un projet, et je fais traîner, j'étais à chaque fois j'avais des rebonds. Et je le plante 2 fois sur des rendez-vous, il devait faire 2 heures de route, et je me dis non, à lui, faut que je lui dise. Parce que par amitié en fait, je veux pas qu'il croie que je le respecte pas, parce que c'est tout l'inverse. Donc je lui confie où j'en suis dans mes projets, et dans la maison d'édition. Et là lui il s'ouvre et me dit bah écoute, je vais te dire un truc que j'ai dit à personne. Là je suis en dépôt de bilan là. Je viens de perdre 500 000 balles, je suis en dépôt de bilan et je suis avec ça. Donc ouais, je comprends en fait. Je comprends. Et lui il a 20 ans de plus que moi. Plusieurs boîtes et tout. Et là on commence à parler, on a fait 1 heure, on a été partage. Et lui ça lui a fait du bien. Parce qu'en fait, quand tu es dans des projets comme ça, il n'y a qu'une personne qui est dans un projet qui peut accueillir ta parole, qui peut avoir la vraie oreille. Il n'est pas obligé de se mettre en mode solution, mais il va, par le fait qu'il puisse comprendre, t'aider à structurer ta pensée, ce qui est en décombre à l'intérieur de toi, prend forme. Et donc, simplement en le formalisant, en le structurant à l'oral, tu vois des solutions. Et donc, lui, il m'a partagé ses échecs, il m'a dit, tu vois, il m'a dit un truc qui m'a vachement aidé. Il m'a dit, c'est horrible, j'ai 6 boîtes. Il y en a 5, c'est des projets de cœur. Il y en a une, c'est un projet, je m'en fous. Mais il me dit, mais ce qui est horrible pour moi à vivre depuis 30 ans, c'est que la boîte où je mets pas de cœur, c'est celle qui fait vivre les 5 autres. Et ça m'a fait un tilt, mais qui est énorme, mais que j'ai compris 2 mois après, au moment où j'ai pris des décisions, qu'elle est dans ce sens-là, où si je restais que sur le cœur, j'étais en train de couler et qu'il fallait que je mette de la rationalité et qu'une fois que le cadre de rationalité était trouvé, je pouvais mettre du cœur. Et moi, tu vois la dynamique?
Complètement.
Et moi, mon cerveau était pas prêt pour ça, mais le fait qu'il soit épanché à la fois techniquement et humainement et que je le connaisse en tant qu'humain, je dis, ah ouais, et on en revient à la sagesse, à quelqu'un qui est plus expérimenté que toi, ce qu'on disait tout à l'heure. Et il m'a amené à quelque chose de très puissant, c'est en gros, sois pragmatique. Moi, ça me fait chier au quotidien d'avoir cette boîte, mais elle me rapporte des millions. Et là, je suis à perte là, mais je m'éclate et je suis trop heureux. Et en fait, j'ai créé un écosystème qui est vivant où ça tient et moi, je suis heureux. Et là, j'ai perdu 500 000, je dépose le bilan. Conjoncturellement, je pourrais rien faire, je pouvais pas lutter. J'ai mis, c'était des trucs, c'était mon éthique. Ça a pas tenu par rapport à un contexte. Bon, ça me fait mal, c'est douloureux, mais grâce à cette boîte dans laquelle je mets pas de cœur, eh ben, ça met pas en péril les 4 autres. Et donc il y avait à la fois du pragmatisme, à la fois du désabus, mais un désabus qui est beaucoup plus grand que ce qu'il avait construit lui, qui est presque un regard sur la vie. Que bah il y a des fois tu dois aller, il y a des fois tu œuvres, c'est-à-dire avec le cœur, avec l'intention, puis il y a des fois t'es dans une forme de labeur, et c'est d'arriver à te mettre au service de ce labeur-là pour y trouver de la conscience et une voie de sagesse. Et moi c'est ça que je suis en train de découvrir. De faire des choses qui, a priori, n'étaient pas la zone d'expression de mon cœur, mais que, en fait, je peux y mettre du cœur et que ça, dans cet écosystème, ça fait un sens complet et que c'est une pierre fondamentale pour la base de la structure que je suis en train d'ériger.
Bon, Fabien, ça me va pas du tout ce que tu me dis là, parce que, Parce que moi, à l'inverse, tu vois, ça fait 10 ans, enfin même plus que je suis entrepreneur. J'ai toujours créé des boîtes et plutôt par opportunité, par envie, ambition, etc. Et maintenant, je suis plutôt sur ce switch vers le cœur, justement. Et donc, j'espère qu'il soit quand même possible et j'ai envie de croire que ce soit possible de mêler,
Bah
justement.
oui, parce que c'est ce qu'on est en train de partager. En fait, tu vois, nous, on est en train de faire ça, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on fasse le podcast à ce moment-là. C'est justement, on se croise à cet endroit-là. Parce que moi, en fait, je t'ai pas coupé la parole tout à l'heure. Tu as dit, ah ben moi, je suis quelqu'un d'ultra rationnel, cartésien, et je vais vers le cœur. Pour moi, il n'y a pas plus grand croyant que le plus féroce des athées. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, tout à fait.
Donc, forcément, qu'il y a un truc, t'as forcément un truc dans les tripes. Après, vu que tu as cette base rationnelle structurante, et puis comme tu disais, où tu vas sur l'opportunité, eh ben c'est ça qui va faire que tu vas pas te cramer les ailes. C'est ça qui va faire durer. Alors qu'à l'inverse, moi, j'y vais le cœur déployé, ouais, j'y vais et tout. Puis là, je me dis, mais putain, mais c'est con, quoi. Même là, tu vois, je me remets dans un projet, je dis, mais ça n'a pas de sens. Et donc, tu retombes sur tes pattes sur comment? Mais moi, j'ai besoin de gens comme toi, en fait. C'est pour ça que
Ouais.
dans les équipes que j'ai que des gens qui sont à l'opposé de mon tempérament. Parce que je sais que je suis trop feu, je suis trop sur. Et puis, il faut me canaliser. Donc, je mets des garde-fous. Je mets des garde-fous avec des gens qui sont dans la même conscience que moi, qui ont la même humanité que moi, si je dois traduire ce mot-là. Par contre, qui ont un état, qui n'ont pas le même tempérament que moi. Et donc, forcément, si toi, dans tes équipes, tu as des gens qui sont posés et tout, qui te connaissent, on va dire, ouais, David, je comprends, mais tu vois, ils vont te freiner et tu n'iras pas te cramer les ailes. Mais en fait, on est dans ce recherche de mouvement et d'amplitude. Il faut forcément qu'on tape les bords du cadre pour pouvoir le définir. C'est indispensable. Donc toi, ce mouvement que tu es en train d'opérer, forcément, tu vas te faire mal à des endroits. Mais c'est la logique d'apprentissage. Je sais pas quel âge t'as.
32.
Voilà, on est hyper jeune. Enfin, toi encore plus. Moi, j'ai 42. Je m'estime encore très neutre, tu vois, par rapport au. Tu vois, par exemple, j'achète des choses sur Boncoin parce que j'ai un gros projet. J'en parle pas à l'antenne parce que ça sera sur 2024. C'est vraiment un très gros projet. Donc, j'ai besoin de machines très spécifiques, très coûteuses. Et donc, c'est sur le Boncoin. Et là, je rencontre des gens qui arrêtent leur boîte, 70, 75 ans. Et donc, les mecs sont sympas. Ils disent, ah, t'es jeune, tu fais ça. Putain, t'es un peu. Tu vois, et puis, ils partagent. Et là, du coup, c'est d'une richesse incroyable. Et c'est-à-dire, je me nourris de ça. Je me nourris beaucoup, beaucoup de ça. Et je me rends compte que, du coup, c'est comme si ça leur ravivait le feu qu'ils avaient, mais 50 ans en arrière. Tu vois ce que je veux dire? Et que peut-être ce qu'ils auraient perdu. Et donc, et je vois qu'ils essayent de me penser à ça, hein, sois vigilant là-dessus. Hein. C'est ça qui est important. Hein. Tu vois, ils te transmettent. Et puis, ouais, d'accord, ouais, donc, ça me conforte. Putain, j'ai un angle mort là-dessus, faut que j'y aille. Et je pense qu'on est là-dedans et qu'on en recherche d'équilibre. Et que, d'où le fait du ce que j'entends, hein, c'est beaucoup de mentorat, hein, par lequel tu passes quelque part aussi. Parce que tu me rapportes des discussions que tu as eues avec des gens, c'est un espèce
Ouais,
de
non, non, mais
mentorat, soit assumé, soit pas assumé. Mais en gros, c'est ça
en
qu'on.
fait, pour être, je dis souvent que Limitless Project a changé ma vie et c'est vrai. Je suis l'opposé de celui que j'étais il y a quelques années à tout niveau. Tu vois, j'ai justement tu parles de ces deux opposés, etc. J'ai eu une tendance à un moment à avoir des semaines de 80 heures, à boire beaucoup trop, à consommer de la cocaïne, etc. Et une hygiène de vie déplorable. Et puis aujourd'hui, je suis vraiment à l'opposé de ça dans cette exploration du potentiel humain, mais aussi de la conscience, parce que quand tu fixes entre guillemets les bases de la pyramide, bah quelque part, ça te permet aussi de t'élever d'une certaine façon en tant qu'humain. Et donc justement, cette découverte du cœur, etc., c'est venu aussi de rencontres, d'expériences. T'as cité tout à l'heure Maurice Daubard. J'ai été faire du yoga Tummo. J'ai eu des expériences aussi un peu plus, on va dire, spirituel, je sais pas si c'est le mot, mais type ayahuasca, psilocybine, etc. Enfin, j'ai exploré plein de choses, tout azimut, et en fait, c'est une somme d'expériences, de rencontres, de découvertes, de réflexions aussi personnelles qui petit à petit m'ont amené à infléchir complètement la courbe de ma vie, tu vois, mais vraiment complètement. Et d'ailleurs, d'y perdre au passage, un alignement avec ce que je faisais, des amis, etc., qui me reconnaissaient plus parce que j'étais vraiment quelqu'un de totalement différent, tu vois. Et d'ailleurs, et je reviens, ça m'y fait penser un petit peu quand tu disais, ouais, moi j'ai ce tempérament-là, je le sais, donc j'ai que des gens dans ma boîte qui sont à l'opposé de moi-même. Moi, j'ai vraiment cette vision d'un organisme vivant, tu vois, une boîte. Et donc chacun est est responsable et entrepreneur au sein de cet organisme dans son champ de compétences. Et en fait, toi, t'es simplement potentiellement le chef d'orchestre de tout ça. Mais chacun Exactement. A sa propre autonomie, mais ses forces, ses ambitions au service de ce tout commun où les faiblesses de l'un sont compensées par les forces de l'autre et ainsi de suite, tu vois. Et j'ai même la même vision avec mon couple, tu vois, avec ma femme. On fonctionne de cette façon-là où on a des talents intrinsèques qui sont différents, des appétences aussi, plutôt que d'essayer un système égalitaire, on fait tous les deux la même chose, la même quantité, la même ceci, etc., et on calcule, et ben en fait, on essaie chacun d'apporter à l'organisme qu'on construit à deux pour le faire rayonner et qu'il soit le plus fort et résilient possible.
Je suis 100% en phase avec ça, mais vraiment, c'est moi ce que j'essaie de faire, c'est pour ça que moi, je me vois pas comme un patron ou comme des employés, et je vais pas dire, ouais, c'est des collaborateurs, toi, le truc où tu pourrais, non, t'es autonome, t'as un champ de compétences où moi, j'ai pas d'expertise ou de connaissances, je peux comprendre, je peux appliquer, je pourrais te remplacer, mais je serais pas bon, quoi, en fait. Et, c'est de faire grandir la personne, et c'est pour ça que, moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver ce rôle de chef d'orchestre que je voulais, d'insuffler, et je me dis, mais, c'est vraiment cette notion d'organisme vivant où la personne, elle est déjà autonome dans son savoir, son application. Elle est déjà entrepreneur d'une certaine manière. C'est pour ça qu'ExuVie, c'est des gens qui viennent s'y ressourcer aussi. C'est-à-dire qu'ils ont une activité, ils ne dépendent pas d'ExuVie et ils viennent y apporter puis y trouver quelque chose qu'ils n'ont pas ailleurs. Et du coup, ça fait un espèce de foisonnement. Et moi, dans les raisons d'être de la maison d'édition, j'avais mis que c'est un laboratoire du vivant. Je voulais justement que les gens viennent expérimenter. Et là, tu vois, ce matin, je prends une décision. On me dit, tiens, on me propose un salon, truc. Du coup, on y va comme ça, mais avec cette intention-là, on le teste, en fait. C'est coûteux, il y a une prise de risque, c'est quelque chose de, mais on y va, en fait. Faut qu'on y aille. Et il y a plein de projets, moi, que je crée, de pôles, pour générer un foisonnement. Puis après, ce que j'aime, c'est comment les pôles peuvent être poreux les uns avec les autres. Et comment les gens vont se rencontrer. C'est pour ça, quand j'avais fait une journée pour la maison d'édition, donc on a fait 400 personnes. Et en fait, j'avais imposé, à tous les conférenciers, donc il y avait 18 conférenciers, je leur ai dit, toi, tu vas faire une conférence sur tel thème avec lui à telle heure. Et donc, c'était que des conférences à deux ou à trois. Les gens me regardaient, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'était tous des gens proches qui me font confiance. Donc, t'as trois quarts d'heure de conférence, c'est ce thème-là et tu dois improviser avec lui que tu connais pas et elle que tu connais pas, et c'est filmé. Et en fait, c'était de provoquer ce mouvement réactionnel chimique, de dire, on a le même cœur, t'as la même intention, on part sur la santé intégrative. Donc, peut-être que ce que va dire l'autre à côté de toi que tu connais pas va être à l'opposé, mais va falloir que tu trouves le point de médiation.
Mais c'est ça qui est intéressant.
J'ai adoré ça. Et ouais. Le soir, c'était de dire, on se retrouve tous chez moi, on fait la fête. On fait tous une grande fête, donc c'était la maison était remplie. Et donc là, les gens ont fait du lien, après ils ont fait leur projet ensemble ou pas. Mais en fait, c'était ça. C'était de créer ce télescopage humain, quoi.
Mais c'est ça. Et ça, en fait, ce que tu décris là, pour moi, c'est ce que j'appelle l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, c'est pas de réunir plusieurs personnes qui pensent la même chose et qui disent la même chose. Au contraire, c'est de réunir plusieurs personnes qui ont la même ambition, les mêmes valeurs, les mêmes volontés, mais qui derrière, avec leur sensibilité, avec leurs expériences, avec leurs connaissances, vont amener ce qu'ils savent pour faire progresser le débat et que la somme des parties est plus importante, que le tout est plus importante que la somme de ces parties, tu vois. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Et je sais pas où on peut retrouver ces vidéos-là, mais tu me donneras les liens, je les mettrai dans l'article.
Ouais, je les mettrai parce que c'est en accès libre. Et donc, je les partagerai. Donc là, c'est 8 conférences sur la santé intégrative de Ponte, hein. Médecin, psychologue, microbiologiste, Et donc, j'ai secoué et c'était, c'était vraiment des scientifiques, des philosophes. Hein, c'était, et moi, c'est ça que j'adore, en fait. C'est ça que j'adore.
Je mettrai tous les liens dans l'article lié pour que les auditeurs puissent retrouver. Et tu me feras penser aussi après le podcast, tu me donneras ton adresse, je t'enverrai un livre qui s'appelle Le Petit Livre Rouge de la Source, qui, à mon avis, te parlera. Je vais fermer ce chapitre sur l'entrepreneuriat qui était un peu plus large que l'entrepreneuriat, bien évidemment, pour revenir aux jeunes, parce que c'est quand même ton sujet d'expertise et que sur 77, 78, peut-être 80 épisodes, j'ai pas suffisamment ou pas encore totalement creusé, même pas du tout, enfin pas assez à mon goût en tout cas creusé ce sujet. Je vais vraiment profiter du fait de t'avoir pour te poser quelques questions. Je reviens à cette idée de l'ultra-endurance. Tu disais, ouais, ça peut être chouette d'adopter un régime cétogène plutôt que de faire une charge glucidique, d'adopter un régime cétogène pendant les jours précédant la compétition. Et après, tu fais ton ultra-trail et potentiellement, t'as pas besoin de manger. Donc, tu manges rien pendant si tu fais 100 km par exemple, tu manges rien ou tu manges quand même des trucs des produits lipidiques genre olifat ce genre de choses.
Voilà, c'est ça. Plutôt des oléagineux ou des pâtes un petit peu graisseuses. Donc moi je parlais vraiment d'un marathon, après sur un effort en fait qui est extraordinaire, tu sors de la zone de l'ordinaire, là tu es vraiment sur quelque chose qui est intellectuel. Tu n'as pas besoin de faire ça, c'est pas un mouvement naturel de faire ça. Tu es dans l'expérience et la transcendance. Donc là, oui, tu auras besoin d'un apport externe. Mais en fait, quand j'ai pris l'exemple du marathon, pour beaucoup, c'est le graal à atteindre. Et donc, ça demande un effort d'entraînement, une grande préparation diététique. Donc, bien sûr, faut entraîner ton corps, mais en fait, ta physiologie, elle est prête. Tes tissus, tes poumons doivent être entraînés, ton cardio aussi, mais ta physiologie, elle est OK avec ça. Donc, c'est surtout ça le message que je veux transmettre. Et puis après, bah, c'est d'avoir, j'avais sorti un livre sur le triathlon préfacé par Frédéric Van Leer, donc champion Ironman. Donc là où il y a toute une étape d'entraînement, tu as des nutritionnistes dedans. Donc là, bien sûr, tu as un accompagnement rationnel, mais à un moment donné, la connaissance physiologique va faire que tu peux te suffire à toi-même par l'expérience du jeûne. Mais il va falloir connaître et dompter sa physiologie. Et en fait, quand tu passes par le jeûne préalablement à la compétition, tu vas te confronter on parlait de peur du manque. D'un point de vue structurel, mais la peur du manque peut être ressentie comme une émotion sur la nourriture. En fait, on a un rapport extrêmement émotionnel à la nourriture. Et le livre que je suis en train de décrire sur le jeûne, il est beaucoup basé sur les émotions et le sentiment, plus que sur la physiologie, parce qu'en définitive, une fois que tu as compris le fonctionnement physiologique, tu sais que quasiment toute la population peut jeûner, à de quelques exceptions près. Par contre, est-ce que mentalement et émotionnellement, tu es apte à jeûner? Et ça, c'est autre chose. Tous les troubles du comportement alimentaire, le jeu que l'alimentation doudou représente pour compenser et tamponner des émotions, c'est énorme. Tu t'anesthésies avec l'alimentation. Donc, si tu t'entraînes pas à te priver d'alimentation, si tu te découvres pendant l'expérience physiologique poussée comme une course à pied intense, bah, tu vas dégoupiller émotionnellement et tu vas te saborder, en fait, parce que tu vas découvrir ça. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est de s'entraîner déjà de jeûner sans effort physiologique. Et ensuite, quand tu fais des efforts physiques d'entraînement, de t'habituer à faire le jeûne pour arriver sans ces peurs-là, sans ces appréhensions inhibantes-là, au moment d'une compétition, par exemple. Donc, ça demande à ce que le mental et les émotions lâchent, là où peut-être on a une zone d'aveuglement très forte.
Tu sais, il y a quelques années, je pesais 70 kilos, j'en fais 80 aujourd'hui, donc je me suis mis à faire de la muscu, de la force, même si j'ai toujours eu cette idée, cette envie d'être un athlète hybride, un peu polyvalent, donc j'ai toujours essayé d'équilibrer un petit peu les différentes sollicitations que j'imposais à mon corps. Je dis imposer alors qu'en réalité c'était plus un plaisir, mais soit. Et donc alimentation très glucidique où je mangeais 4-5 fois par jour à fond, et tu vois, en fait t'es tout le temps en train de digérer et tu comptes tes calories, et ça m'a apporté plein de choses parce que j'ai compris ce que je mangeais. Maintenant j'ai une sorte de calculatrice dans la tête, et quand je prends un aliment, je sais ce qu'il y a dedans, entre guillemets, en termes de macro en tout cas, et puis même un petit peu grosso modo en micronutriments. Et puis après, dans cette exploration, bah, j'ai évolué, et puis j'ai testé un petit peu le paléo, le cétogène. Maintenant, je suis plutôt sur une alimentation low carb. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je te disais, moi, c'est des questions que je reçois souvent, et j'ai cru à un moment que, par exemple, faire du jeûne intermittent, c'était incompatible avec le fait de faire du sport, parce que comment est-ce que tu manges suffisamment dans une fenêtre d'alimentation réduite? Et pour autant, avec du low carb, en réalité, d'ailleurs, sans compter mes calories, c'est ça qui est assez marrant et paradoxal, j'ai extrêmement facile à manger 2000 ou 2800 ou 3000 calories avec deux repas, parce que bah, déjà, les lipides sont beaucoup plus riches en calories.
Très concentré, ouais.
Un gramme, 9 kilocalories. Et puis en plus, je pense que génétiquement aussi, je métabolise bien les graisses, donc je me sens pas lourd. Donc en mangeant comme ça, j'ai une énergie qui fluctue moins, donc je mange que deux fois par jour. J'ai une énergie qui fluctue moins, je me sens pas lourd. Au final, j'arrive à maintenir mon poids. Enfin, en tout cas, c'est pas un objectif sacro-saint, mais à maintenir une certaine masse musculaire, etc., tout en m'entraînant en endurance. Enfin, je me sens bien, tu vois, je me sens équilibré. Est-ce que tu partages là sur le fait de, en fait, physiologiquement, t'es adapté à courir à jeun, t'es adapté à faire tout ça? Bah, je le ressens pleinement. Tu vois, je peux partir courir là, j'ai pas mangé ce matin, je peux partir courir une heure, je vais sentir aucun problème. Et d'ailleurs, j'ai eu envie là de, en plus du jeûne intermittent, une fois par semaine, de me faire un petit jeûne de 24 heures. Tu parlais de peur tout à l'heure et je vais pas dire j'avais de l'appréhension parce que je voyais plutôt comme une exploration, mais je me demandais quand même ce que j'allais ressentir. Est-ce que je vais ressentir la faim? Est-ce que ça va être difficile, etc. Et j'ai été extrêmement surpris de m'apercevoir qu'en réalité, je ressentais rien de difficile en fait, parce que déjà au final ça ne supposait que supprimer qu'un repas, puisque j'en mangeais déjà que deux par jour, donc en supprimant un j'étais à 24 heures. Et puis ensuite, parce que grâce à cette alimentation plutôt low carb ou cétogène, naturellement j'ai une hypolyse qui fonctionne bien, et donc en fait c'était facile. Bon, après j'imagine que quand tu rentres sur des jeûnes un petit peu plus longs, c'est différent, mais voilà, c'était juste pour relier avec ces croyances limitantes et cette pensée du sportif qui se dit j'ai besoin absolument de mon gel, ou il faut que j'ai tant d'alimentation à l'effort, ou il faut que j'ai telle répartition de mes macros sur ma journée, sinon ça va pas aller, telle quantité de protéines, etc. Je pense que c'est important d'avoir quand même des bases, parce que sinon tu peux faire des erreurs nutritionnelles qui peuvent être préjudiciables si tu as une activité sportive assez importante en volume hebdomadaire, parce que ça reste un stress, mais que pour autant le corps est capable de beaucoup plus que ce qu'on pense.
Tu regardes typiquement certaines zones comme l'Afrique ou l'Asie, où tu as des personnes qui sont extrêmement toniques, athlétiques, endurantes et avec un bon système immunitaire, mais qui n'ont pas un bon équilibre nutritionnel. Tu en as beaucoup, hein. Et là, du coup, ça te commence à te poser des questions. C'est-à-dire, la dentition est bonne, les fibres musculaires sont bonnes, les analyses sanguines sont bonnes, et il n'y a pas toute à la fois la connaissance ni la disponibilité nutritionnelle pour aboutir à ce résultat-là. Donc ça montre que le corps a un potentiel incroyable, et que si on est dans la surconification, par exemple, le mouvement, moi je m'intéresse beaucoup à la connaissance du milieu de la musculation. Pas la musculation en elle-même, parce que ce sont des gens qui s'entraînent à l'extrême tous les jours, ils sont au point de rupture tout le temps. Donc, s'ils n'ont pas la bonne connaissance sur les oméga 3, s'ils n'ont pas la bonne connaissance sur les macros globalement, ils se rompent, ils pètent. Et donc, c'est une acquisition de connaissances, une transmission aussi par l'expérience sur des dizaines d'années, qui fait que moi, quand j'ai commencé à étudier les acides gras, il y a 15 ans, j'ai été sur les forums de muscu, quoi. Parce qu'ils avaient ils te faisaient une synthèse internationale que les meilleurs chercheurs en nutrition n'avaient pas. Parce que c'était que des tarés, des passionnés qui étaient omnubilés, qui étaient monomaniaques de ça. Et moi, ils m'ont fait gagner un temps incroyable. Sauf qu'aujourd'hui, par l'hyperprolifération de cette mode de la musculation, enfin de ce mouvement plutôt, tu arrives à voir des choses, des courants de tous les niveaux, et te dire, putain, le mec, il fait à l'inverse. Il a les mêmes résultats, comment c'est possible? Et donc, c'est ça que je trouve très beau, c'est ce foisonnement des possibles. Et après, tu reviens dans quelque chose qui est très naturopathique, et que, en définitive, la musculation a aussi abordé, mais n'a pas poussé le curseur encore assez loin, je trouve, c'est les différences endocriniennes, les différences de profil, les déformes, les ectomorphes, voilà ce que nous, en naturopathie, on va analyser comme sanguin, bilieux, etc. Et là, du coup, tu vas te rendre compte que tu vas aller vers d'une connaissance globalisée à quelque chose qui est très singulier. Et moi, je trouve ça merveilleux que les gens se mettent justement au sport et découvrent les cétogènes. D'ailleurs, on posait la question sur le régime ancestral, et en fait, ça fonctionne. Et c'est pas des fois ce que tu vas mettre, mais ce que tu vas être capable d'enlever. Et en fait, c'est des aliments nocifs que tu vas pas mettre qui vont plus être la clé que ceux que tu vas mettre. Ce que tu as trouvé exactement. Et des fois, c'est par la suppression complète, c'est-à-dire jusqu'au jeûne, pour y trouver une opportunité d'expression autre.
Écoute, Fabien, tu m'as dit que tu avais une obligation là dans 3-4 minutes. Ouais. Il me reste encore un tas de sujets à aborder. Je vais les donner un petit peu en pagaille, mais donc ce que ça signifie, c'est qu'il faut que tu reviennes rapidement pour qu'on puisse terminer ce podcast, parce que là, on n'est qu'à la moitié. Donc je les balance, hein, sur le jeûne, en tout cas déjà. Justement, en quoi est-ce que, par exemple, pour un sportif, le fait de faire une fois par semaine ou une fois par mois, de temps en temps, un jeûne peut l'aider à recycler, nettoyer, etc. Et en quoi est-ce que les deux peuvent être compatibles? C'est quelque chose qui m'intéresse. Quelle est la différence entre un jeûne intermittent de 16 heures et puis un jeûne de 24 heures? J'ai notamment vu que sur 24 heures, il commençait à y avoir des phénomènes d'apoptose, etc. Aujourd'hui, il y a quand même toute une... Au début, tu vois, le jeûne, j'ai l'impression que c'était un truc vachement ésotérique. Et maintenant, avec cette science de l'anti-vieillissement, les Brian Johnson, etc., et ben, ça devient
Walter Longo qui a fait un boulot énorme sur en gériatrie quoi là-dessus.
Ouais, voilà, ben ça devient vraiment hype en mode c'est un outil qui permet de diminuer la sénescence, de vivre plus longtemps, et donc j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de particulier après 22, 23, 24 heures de jeûne qui se passe pas après 16 heures de jeûne. Tu as parlé de musculation. De façon assez paradoxale, il y a des pratiquants qui font du jeûne et qui perdent pas de masse musculaire, probablement parce que on voit une production accrue d'hormones de croissance. Comment est-ce que tout ça s'orchestre et voilà, comment on peut en profiter? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Potentiellement, donc t'en as un petit peu parlé du régime low carb cétogène, peut-être pour rentrer dans le jeûne et pour sortir du jeûne de telle sorte à ce que l'entrée soit peut-être plus facile et puis que la sortie restait un petit peu en état de cétose un peu plus longtemps, parce qu'on sait que l'acétose est une espèce de marqueur cellulaire qui stimule les sirtuines, etc. Donc il y a des choses à aller creuser de ce côté-là. Le jeûne et la maladie, parce que le jeûne participe à régénérer un petit peu le système immunitaire. Donc, est-ce que quand on est malade ou enrhumé, on aurait peut-être intérêt pendant 2-3 jours à ne pas manger? Et puis enfin, une question peut-être un petit peu plus, entre guillemets, philosophique, entre cette opposition entre AMPK et mTOR. AMPK qui est un petit peu la voie de la survie, mais qui est associé à la longévité, et mTOR qui est plutôt la voie de la croissance et associé à la vie intense. Et est-ce que, tu vois, le jeûne intermittent, quelque part, pourrait être... Et donc là, on part sur un truc, on s'avance.
C'est très métaphysique, et moi, ça m'est venu... C'est hyper intéressant que tu as... Moi, ça a mis du temps à venir, cette réflexion-là. Donc là, il faudra qu'on prenne du temps là-dessus, parce que moi, c'est quelque chose que je creuse depuis un an et demi seulement, que en fait j'observais, mais que j'avais pas pris à sa juste mesure, de la même façon que les toxines sont essentielles à la vie. C'est-à-dire tu sors de la dualité. Comment tu sors de la dualité pour pouvoir comprendre d'un point de vue métaphysique le fonctionnement du vivant? Et en effet, cette réflexion-là, anabolique, catabolique, et toxine, régénération, pour moi, on est dans presque du taoïsme. Enfin, on n'est pas presque, on est dans quelque chose de taoïsme. J'ai dû aller vers les sciences orientales pour comprendre quelque chose de complètement physiologique et rationnel.
Mais je suis content que ça t'inspire, parce que c'est une réflexion qui trotte dans ma tête depuis déjà quelques semaines. Et je cherchais quelqu'un avec qui, justement, cheminer et explorer cette idée qui est à la frontière entre la physiologie et la philosophie. Voilà, donc tu vois, beaucoup de sujets abordés, et puis en plus il y a mes petites questions de fin que je pose après à tous mes invités. Donc tu vois, on a vraiment un gros programme, donc il faut que tu me...
Avec Joe, j'ai beaucoup aimé déjà cette heure et demie ensemble, donc avec grand plaisir pour faire la suite très vite quoi.
Ouais, on essaie de je vais t'envoyer 2-3 créneaux. Je te libère. Merci Fabien, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à échanger avec toi et de faire ta connaissance.
Puis ça me met dans ce mouvement là. J'ai une obligation par rapport à ce gros nouveau projet, on en parlera en off, je pense que ça te... Voilà, merci de cette première partie d'échange.
T'as une minute pour faire un check-out? Pour me dire dans quelle énergie tu te sens maintenant?
Ouais, j'ai une minute.
Ben vas-y, donc du coup, le check-out, c'est que tu me dis dans quelle énergie t'es maintenant.
En fait, moi, si tu veux, dans mon environnement, je côtoie peu d'entrepreneurs rationnels comme tu peux l'être, et moi, ça me fait du bien parce que je suis là-dedans en ce moment, donc je suis très content d'avoir eu cette discussion, parce qu'il y a plein de points de convergence. Toi, ce que tu partages aussi, c'est vraiment des réflexions mais très intenses. Là, on parlait d'un aspect de métaphysique physiologique. Et ben, dans tout ce qui est entrepreneuriat, des fois, tu te sens tout seul, en fait. Tu te sens tout seul avec ta conscience, tes limites, ton envie, ton besoin, tes peurs, le cœur grand déployé, mais qui peut se fracasser sur le réel. Et donc, ça m'a fait... Enfin, je suis très content parce que c'est des dynamiques excessivement actives en ce moment. Et de pouvoir les structurer à l'oral avec toi et dans le partage, ça m'a fait beaucoup de bien et un grand plaisir.
Mais écoute, j'ai ressenti exactement la même chose, cette complémentarité, et je pense qu'on aurait peut-être bénéfice à l'explorer sous forme peut-être d'une mastermind une fois par mois pour échanger justement et se compléter dans nos caractères différents, mais en même temps dans nos volontés conjointes d'évoluer.
Bah, restons en lien. Je peux pas te dire mieux.
Allez, merci beaucoup. À bientôt, Fabien.
Merci. À très vite.
Bye.
Bah, j'attends tes nouvelles. Bye bye.
Ciao.
Tu connais l'effet papillon ? Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.
As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com/adfreenewspodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.
Is there anything more satisfying than finding something that perfectly lines up with your taste and checks all the boxes? Like getting the perfect fit with a suit from Indochino. Their suits are made to measure and totally customizable with endless options. From timeless classics to bold statements, you can express your style exactly how you want. Choose your own cut, fabric, lining, buttons, lapels, and more to create the suit of your dreams, all at a surprisingly affordable price. They also offer fully customizable blazers, pants, outerwear, women's wear, and more. Every Indochino piece is made to your exact measurements, and they make getting measured easy. Simply set up your measurement profile in less than 10 minutes. You can send your measurements online from the comfort of your home or make an appointment at one of our showrooms. Find the perfect fit with Indochino. Go to Indochino.com and use code PODCAST to get 10% off any purchase of $399 or more. That's 10% off with code PODCAST.